VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 18h30 en temps universel. Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui. John Lindell à la présentation de cette édition du vendredi 1er septembre 2023. Pour commencer, le sommaire. Au Gabon, la prise de pouvoir par les militaires est une révolution de palais qui maintient en place le système Bongo, selon l'opposant Albert Ondoosa. Le bras de fer diplomatique se poursuit entre le Niger et la France alors que l'Algérie et le Nigeria suggèrent une courte période de transition. Une enquête exhaustive, c'est ce que réclame l'ONU ce vendredi à propos de la répression par l'armée d'une manifestation à Goma qui a fait au moins 48 morts.
Nous exhortons l'armée de ne pas jeter les corps de nos frères dans les lacs, qu'elle nous les ramène et chaque famille se chargera d'enterrer ses morts.
Reportage à suivre dans la partie magazine. On parle déjà élection en Côte d'Ivoire avec la tenue demain samedi d'un double scrutin municipal et régional. Nous suivrons l'analyse d'Amos Beonao dans la deuxième partie de cette édition. Et en sport, dans ce journal, nous parlerons du tirage au sort de la Ligue Europa et Nathalie Barge sera là pour la Minute Éco. Mais pour commencer, le journal. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema prête serment lundi en tant que président d'une transition dont la durée n'est pas encore déterminée. L'opposition exhorte les putschistes à reconnaître plutôt la victoire de son candidat à la présidentielle. Alexandrine Lognon nous en dit plus.
Le général Oligui, à la tête des militaires qui ont renversé mercredi le président Ali Bongo Ondimba, à peine proclamé réélu, a promis la mise en place progressive des institutions de la transition et le respect de tous les engagements du Gabon, extérieur et intérieur. L'opposition, elle, est sortie jeudi de son silence pour demander aux poutistes de reconnaître la victoire de leur candidat, Albert Ondoosa, en reprenant la compilation des résultats de la présidentielle. Ce dernier, interrogé par TV5 Monde, a affirmé que la prise de pouvoir des militaires dans son pays était une révolution de palais qui maintient en place le système Bongo. L'opposant interpelle la communauté internationale et précisément la France qui ne peut pas se déjuger. Dès lors qu'on proclame le coup d'État, on doit condamner ce qui s'ensuit, à savoir effectivement la transition, a-t-il fait valoir. Dans un communiqué hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé qu'un gouvernement militaire ne pouvait qu'aggraver les problèmes.
Toujours à propos du Gabon, si un long que les avocats de Sylvia Bongo, épouse franco-gabonaise du président Ali Bongo Ondimba, placée en résidence surveillée par des militaires qui l'ont destitué à l'issue d'un coup d'État mercredi, ont déposé plainte en France vendredi pour détention arbitraire. Madame Valentin, épouse Bongo, est privée de sa liberté depuis le putsch du 30 août 2023, tout comme son fils cadet Djalil, tandis qu'un autre fils, Noureddine Bongo Valentin, est incarcéré dans un lieu tenu secret, s'inquiète maître François Zimeré et Jessica Finel dans un communiqué. Jusqu'alors, les militaires n'avaient rien dit du sort de Madame Bongo, mariée à Ali depuis 1989 et avec qui elle a eu 4 enfants. Au Niger, pendant ce temps, les militaires au pouvoir depuis un mois n'ont pas réagi aux suggestions de transition de courte durée par l'Algérie et le Nigeria vendredi. Ils continuent le bras de fer diplomatique avec la France. Les détails avec Ginny Niwa.
Les deux voisins du Niger, à savoir l'Algérie et le Nigeria, ont ouvert la porte à une éventuelle transition. Le président nigérian Bola Tinubu, président en exercice de la CDAO, a suggéré jeudi dans un communiqué une transition de 9 mois telle qu'elle avait eu lieu dans son pays en 1999, tandis que l'Algérie propose un plan de transition de 6 mois sous la tutelle d'une autorité civile. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, elle, reste ferme sur sa position, un rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel et la réinstallation du président renversé, Mohamed Bazoum. La tension reste par ailleurs vive entre le régime de Niamey et la France. Les autorités militaires avaient donné 48 heures à l'ambassadeur pour quitter le territoire, un ultimatum rejeté par Paris qui estime que ce gouvernement est illégitime. Ce vendredi, les Nations Unies ont annoncé qu'elles prendraient contact avec les militaires après la suspension des activités des ONG et organisations internationales dans certaines zones.
Une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense est arrivée jeudi à Ouagadougou pour échanger avec le président du Burkina Faso sur des questions de développement et de coopération militaire, indique la présidence burkinabé. Nous avons discuté des questions évoquées lors de la rencontre entre le président de la transition du Burkina Faso et celui de la Fédération de Russie lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, a déclaré le vice-ministre Younous Bek Yevkourov à l'issue d'une rencontre avec le président Ibrahim Traoré. L'électorat pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain est convoqué à partir d'aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les candidats à ce scrutin ont un mois pour déposer leur nom du 9 septembre au 8 octobre 2023. Le point avec Bagassi Koura.
Plus que 110 jours pour la tenue de la présidentielle en RDC, le président de la Commission électorale nationale et indépendante, Denis Kadima, a officiellement convoqué aujourd'hui l'électorat 8 jours avant le début du dépôt des candidatures qui devra durer un mois. Il fait l'annonce en dépit des appels de l'opposition, mais aussi des églises catholiques et protestantes qui continuent à exiger un audit indépendant du fichier électoral. Les catholiques et les protestants se sont même opposés à la tenue si la question du calendrier pose problème. L'opposant Martin Fayoulou refuse de participer aux élections tant que la demande ne trouvera pas satisfaction. Moïse Katumbi accepte quant à lui d'y aller malgré tout. Dans son annonce, Denis Kadima a rétorqué que, je cite, « la réponse à tous ces prophètes de malheur qui annoncent des troubles jusqu'à la chute de ce régime est sans effet. Plus de 44 millions de Congolais ont été enregistrés comme électeurs, mais les élections qui seront à la fois législatives et locales ne pourront pas se tenir dans les régions du Masisi, Rutshuru dans l'Est et Kouamouf dans l'Ouest pour des raisons de sécurité. »
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine a affirmé ce vendredi avoir mené cette semaine une attaque de drones contre un aéroport russe à partir du territoire russe, au moment où Moscou indique s'être emparé de positions clés dans l'est de l'Ukraine. Le point avec Rosine Munezero.
Kiev s'efforce de porter les hostilités jusqu'en Russie en pleine contre-offensive pour libérer les zones occupées. Les drones utilisés pour attaquer la base aérienne de Kresti à Peskov ont été lancés de l'intérieur de la Russie, a assuré le chef du renseignement militaire Kirillo Budanov sur Telegram. « Nous opérons du territoire de la Russie », a insisté M. Budanov. C'est la première fois que Kiev reconnaît opérer à l'intérieur du territoire russe où se sont également produits des actes de sabotage présumés en plus d'incursions armées par des combattants russes pro-ukrainiens. Le Kremlin a lui refusé de commenter cette revendication, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov estimant qu'il s'agissait d'une prérogative de leurs militaires. La Russie a par ailleurs affirmé vendredi s'être emparée de positions clés sur des hauteurs près de la ville de Kupiansk, dans l'est de l'Ukraine. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a reconnu ces derniers jours des combats très intenses dans cette zone où des responsables ont appelé, début août, la population vivant à sa proximité à partir.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et dans le monde, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Au Sénégal, la directrice commerciale de la Sénélec, Tabarane Doye, a affirmé jeudi que les tarifs de l'électricité des compteurs Wayofal sont restés les mêmes depuis le 1er janvier, en réponse à des plaintes de la clientèle. Elle a toutefois reconnu que ces prix sont parmi les plus élevés en Afrique de l'Ouest. Madame Doye a précisé que la Sénélec n'a pas la possibilité de fixer les tarifs sans l'aval du régulateur. La Sénélec a reçu fin juillet plus de 30 000 réclamations. Le ministre d'État britannique chargé du développement et de l'Afrique, Andrew Mitchell, est en visite à Kigali jusqu'à samedi. Il a annoncé des projets de 72 millions d'euros pour l'éducation des filles au Rwanda. Il s'agit notamment du programme Girl, visant les filles marginalisées et les enfants handicapés. L'objectif est d'améliorer l'apprentissage de 700 000 élèves dans les écoles les moins performantes. Ce projet sera financé par le Commonwealth et l'UNICEF sur la période 2023-2030. L'initiative Internet Japon a lancé une étude de faisabilité pour la construction d'un centre de données modulaire conteneurisé au Kenya. Le centre que l'entreprise japonaise spécialisée dans la fourniture d'accès à Internet veut créer sera équipé de 4 racks avec une puissance maximale de 10 kW par rack. Cette initiative est réalisée dans le cadre d'un projet du gouvernement japonais sur les opportunités commerciales émergentes sur le marché africain.
Et nous voici en sport avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Ligue Europa, tirage facile pour Liverpool, Brighton affronte l'Ajax et Marseille dans la poule la plus relevée.
Oui, le groupe le plus relevé de la phase de poule de la Ligue Europa réunit deux anciens champions d'Europe, l'Ajax d'Amsterdam et bien sûr l'OM, l'Olympique Marseille, avec aussi la sensation anglaise Brighton et l'AEK Athènes. Après le tirage au sort effectué hier jeudi à Monaco, Liverpool grand favori de la C3 avant que les 8e de groupe de Ligue des Champions ne soient reversés, a hérité d'un groupe à la mesure de son talent avec les Français de Toulouse, les Autrichiens de Linz, ASK, et l'Union Saint-Galloise, un club de Bruxelles. Les Reds de Jürgen Klopp, qui ont manqué le train de la C1, devraient sortir de ce groupe, les premiers étant qualifiés pour les 8e de finale, les 2e pour un barrage contre les éliminés de C1 et les 3e donc se retrouvant en Ligue Europa Conference. West Ham United, vainqueur de l'Europa Conference League la saison dernière, se rendra en Grèce pour affronter Olympiakos dans le groupe A, qui comprend également l'équipe allemande de Bundesliga de Fribourg et le TSC Baka Topola de Serbie.
Et d'autres nouvelles de transfert, Bagassi.
Oui, selon le site du journal L'Équipe, Juan Bernat du PSG devrait être prêté au Benfica. Francfort et le PSG trouvent un accord pour Kolo Muani, qui sera donc transféré au Paris Saint-Germain. En plus, Francfort a officialisé l'arrivée de Niels Nkoulou en provenance de Saint-Étienne et Ansu Fati, prêté par le Barça à Brighton en Première Ligue. Sergio Reguilón, prêté à Manchester United par Tottenham.
Et puis, basketball mondial 2022, les États-Unis souffrent pour battre le Monténégro.
Oui, après un premier tour au flamboyant, les États-Unis sont entrés plus difficilement dans le second. Vainqueur poussif du Monténégro, 85-73, encore dans le coup pour la victoire à 2 minutes de la fin. Vendredi à Manille, ils sont qualifiés pour les quarts de finale grâce à la victoire un peu plus tard de la Lituanie, 92-67 contre la Grèce, qui valide également son billet. Les deux équipes, 4 victoires chacune, s'affronteront dimanche pour la première place du groupe G. L'Australie, médaillée de bronze au JO 2021, l'un des candidats au titre, a été éliminé dès le 2e tour du mondial de basket après sa défaite ce vendredi à Okinawa, au Japon, contre la Slovénie, 91-80, qualifiée pour les quarts de finale comme l'Allemagne dans le groupe A.
Merci Bagassi et bon week-end.
Lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h PU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon, toujours en votre compagnie, place au dossier du jour. Et on commence par la RDC. Les réactions se poursuivent donc en République démocratique du Congo après que des dizaines de civils ont été tués mercredi 30 août dernier à Goma par l'armée et la police nationale congolaise, selon des témoins et des sources locales. Le gouvernement congolais, tout en annonçant l'ouverture d'enquête, a déploré le décès des 43 civils. L'ONU réclame une enquête. C'est un reportage des Anem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Innocent Luanda, fille membre de cette famille, mais il a perdu sa vie à l'âge de 15 ans après la répression de la manifestation anti-MONUSCO. Son corps est introuvable et depuis mercredi, son frère aîné Jackson a fait le tour des morgues des différents hôpitaux. En vain.
Il y a beaucoup de corps qui restent jusque-là introuvables, mais les gouverneurs continuent de nous parler des 6 personnes tuées. Si vous faites le tour de ces quartiers, il y a des deuils partout. Certains comme nous manquent leurs frères, d'autres leurs enfants et d'autres leurs parents. Nous exhortons l'armée de ne pas jeter les corps de nos frères dans les lacs, qu'elle nous les ramène et chaque famille se chargera d'enterrer ses morts.
Depuis la soirée du même mercredi, des images d'hommes en tenue militaire embarquent des cadavres dans des camions enflamment les réseaux sociaux à Goma. Nombreux parmi les victimes étaient abattus dans les temples. Leur secte, qui se nomme Wazalendo, témoigne Mumbere et Georges, voisins de ces temples qui avaient aussi été incendiés.
Les Wazalendo qui étaient dans les temples avaient brandi leur drapeau en l'air en criant « Nous voulons la paix, ne nous tuez pas ». C'est à cet instant qu'on les avait tous tirés dessus et leurs cadavres jetés dans des véhicules. Celui qui bougeait encore était poignardé à l'aide des baïonnettes. C'est ainsi qu'ils avaient chargé 2 camions de cadavres.
La colère monte d'un cran à Goma, où Espoir Ngalukiye, ancien militant de la Lucha, demande au gouvernement de Kinshasa de mettre la main sur tous les responsables de cette tuerie.
Nos FRDC et notre police, ils ont brillé en massacrant des paisibles citoyens congolais, qui n'étaient même pas détenteurs d'armes à feu. Tous ceux-là qui étaient les commandants des opérations, ils doivent être déférés devant la justice, afin de s'expliquer comment se fait-il qu'on doit tirer à bout pourtant, si les citoyens congolais.
Les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu ont, dans une déclaration faite ce vendredi, demandé la libération de tous les civils arrêtés le mercredi par les forces de l'ordre. Ils prévoient de manifester lundi 4 septembre. Jacques Sinzaera est activiste du mouvement citoyen Amka Congo.
Nous sommes en train de demander au gouvernement central de Kinshasa de ne pas enterrer ces morts sans des enquêtes et que des familles doivent avoir accès à ces morts. La libération de tous les prisonniers qui ont été arrêtés pendant cette barbarie, s'ils ne sont pas libérés dans les 48 heures, dès lundi, des manifestations commencent pour revendiquer leur libération.
Le gouvernement congolais a donné un bilan des 43 civils tués, 56 blessés et 158 arrêtés, pendant que les acteurs de la société civile locale parlent de plus de 56 personnes massacrées alors qu'elles tentaient de manifester contre les forces de l'ONU dans cette région. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique. Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, les électeurs sont appelés demain samedi 2 septembre aux urnes pour les élections municipales et régionales. Ils vont choisir les dirigeants de 201 communes et 31 régions. À 2 ans de la présidentielle, ce scrutin doit permettre de mesurer les forces politiques en présence sur l'échiquier ivoirien avant la présidentielle de 2025. Pour une analyse, Jean-Roger Billon a joint à Abidjan Amos Buenao, analyste politique et social.
Les élections locales, comme leur nom l'indique, sont des élections de gouvernement où les partis politiques ne devraient pas être en avant. Mais quoi qu'il en soit, en Afrique, la politique est toujours en avant. Et donc, les résultats de ces élections nous permettront de savoir quelle est la valeur réelle des partis politiques ivoiriens, notamment le PDCI, le PPACI, le parti au pouvoir, le RHDP, le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir, comme vous le savez, depuis 15 ans.
C'est la première fois que le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo descend à l'arène pour les élections locales. Est-ce que cela aura une certaine plus-value pour cette élection?
On n'a pas de résultats, notamment à Abidjan, il y a des biais importants, notamment à l'Union, qui est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, voire de l'Afrique, où vous avez le fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, qui représente le PPAC, qui est tête de liste pour les élections municipales. Nous avons Victor Bo, qui est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, donc qui est la tête de liste qui représente le parti au pouvoir. Et nous avons Dia Oufri, qui est le représentant du PDC-RDA, du défunt Henri Konan Bedi. Donc le vrai duel se passera à Yutoubon. Après Yutoubon, nous avons la commune de Kodoubou, qui est la commune bourgeoise, la commune des résidents des hauts cadres des intellectuels d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Et donc nous avons ici le RHDP qui est représenté par Eric Tabar, qui est le chef du protocole du président de la République, qui est le candidat de tête de liste de le RHDP, le parti au pouvoir. Nous avons le PDC, il faut le dire, qui va avoir du chercher avec Yasmina Onien, qui vient en tant qu'indépendante, même qu'elle soit une grande militante du PDC avec certains anciens agents au maire du maire sortant. Donc le maire sortant de Kokoubi, Yassé, qui est le candidat du PDC RDA, qui a été abusé par le président avant sa mort, et donc c'est un duel aussi à mort.
Oui, on va terminer avec cette dernière question. Beaucoup de membres du gouvernement sont candidats. Quel est le sens de la participation des membres du gouvernement?
Ça veut dire d'abord que le parti pouvoir prend cette élection au sérieux. C'est des élections, comme je l'ai dit, tantôt d'enjeux. On veut peser le poids à travers les résultats de chaque parti, de son leader, à travers les résultats de ces élections. Donc on comprend pourquoi le parti pouvoir a mis tous ces trois lignes en jeu.
Amos Bouinao, analyste politique et social, ancien président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, des jeunes, malgré le contexte sécuritaire et humanitaire difficile, arrivent à faire bouger des lignes. Parmi eux, Afizé Ouédraogo, un jeune qui arrive à impacter sa société à travers des formations en entrepreneuriat. De nombreux jeunes sont satisfaits de collaborer avec cet entrepreneur qui a participé en 2022 au YALI, le Young African Leaders Initiative du département d'État américain. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Nous sommes ici dans une des séances de formation de Afizé Ouédraogo. Il a été sollicité par une banque de la place pour l'administrer. Il a 32 ans.
Beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas leurs clients.
Et cela fait une dizaine d'années que ce diplômé en maintenance industrielle s'adonne à la formation de jeunes entrepreneurs. Afizé est réputé et apprécié dans ce qu'il fait.
C'est un jeune dynamique, c'est un jeune talentueux. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut vraiment donner un plus à l'entrepreneuriat.
Moi, personnellement, j'ai une idée de projet. Donc, avec les échanges, nous arrivons à mieux comprendre comment bien structurer notre projet. Ça va nous permettre d'être demain de grands entrepreneurs. Je peux dire que M. Afizé Ouédraogo est un jeune qui impacte beaucoup la jeunesse à travers tout ce qu'il fait.
De l'autre côté de la ville, le quartier s'appelle Somgandé. Afizé vient d'arriver dans un de ses bureaux.
Ici, vous êtes au sein de l'association Koura, où je suis moi-même membre, ancien président de l'association Koura, aujourd'hui membre du conseil supérieur de cette association-là. Ça fait depuis 2017 que je suis membre de l'association. C'est une association qui contribue beaucoup à l'amélioration du climat, des affaires, surtout pour la jeunesse.
Mais la donne sécuritaire ne favorise pas les activités du jeune Afizé. Cependant, il peut bien s'adapter.
On peut bien développer une activité à Ouaga, on peut bien développer une activité à Bougou parce que c'est accessible. Mais lorsqu'on a envie aussi que ceux de Fada, on a envie aussi que ceux de Diapaga, on a envie aussi que ceux d'autres villes qui sont touchées par ces questions de terrorisme puissent avoir accès à ces services que nous offrons parce que nous sommes évidemment sûrs que le besoin est là. Et nous aussi, en tant qu'entrepreneurs aussi, c'est de pouvoir en fait réfléchir à comment tout en contribuant aussi.
Ce jeune est l'un des collaborateurs de Afiz. Ici, les deux parlent d'un de leurs derniers projets. Il a beaucoup d'estime pour son collaborateur.
Il arrive véritablement à impacter et à transformer un peu l'environnement entrepreneurial, socio-économique au niveau même des jeunes.
Afiz a participé au Yali Mandela Washington Fellowship en 2022. Une belle expérience, selon lui, qui a permis de voir les différents challenges auxquels les pays africains sont confrontés. Afiz croit en l'avenir de son pays, mais surtout en ses potentialités. Il croit aussi en son continent. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Et on va terminer par la musique. C'est une passion pour lui depuis son plus jeune âge. Eden Jay, puisqu'il s'agit de lui, est disc jockey. Il a 28 ans, originaire de France. Il a perdu la vue en 2020 suite à une greffe rénale. Malgré les difficultés engendrées par son nouveau quotidien, le jeune homme affiche un optimisme à toute épreuve. La musique lui a permis d'avancer. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Lunettes de soleil, épaules noires, Eden Jay mixe derrière ses platines d'une terrasse d'un restaurant branché de la Côte d'Azur. Une soirée à première vue classique, exception faite que si les convives voient le DJ, cela n'est pas réciproque. Eden Jay a perdu la vision en 2020 et depuis lors, il se bat pour surmonter les difficultés engendrées par son nouveau quotidien.
Le plus important, c'est l'acceptation. Quand on arrive à passer ce cap-là, ça nous fait moins, je veux dire, on est moins irrité par la chose. Donc du coup, c'est vrai, s'ils le savent, ça me fait plaisir, j'en parle avec eux et ça me fait vraiment, je veux dire, chaud au cœur de pouvoir discuter de ça avec les personnes qui sont autour de moi. Mais après, s'ils s'en rendent pas compte, ça m'est arrivé par exemple des fois d'avoir des réflexions.
Eden Jay, ou Adnan Marfik, son vrai nom hors de scène, avait débuté sa carrière professionnelle avant de perdre la vue. Mais grâce à sa passion pour la musique, Eden Jay a eu la force d'avancer.
Au quotidien, j'ai réussi quand même avec le temps à m'adapter à ce que j'ai vécu. Donc c'est vrai que bon, perdre la vision, c'est quelque chose un peu de compliqué à gérer. Mais c'est important aussi de rebondir. Et justement, ma force, c'est justement de rebondir sur ça, pas rester et subir la chose, mais essayer de construire autour quelque chose, un projet, construire une vie.
Eden Jay a pour source d'inspiration des DJ comme Pete Tong, Kong ou Bob Sinclair, son idole. Peu de clients dans les mariages ou les restaurants remarquent son arrivée, canne à la main, aux côtés des proches qui l'assistent. Il arrive à faire le branchement de ses appareils de musique tout seul et il place à des endroits stratégiques ses clés USB où figurent les playlists de la soirée. Mais la difficulté apparaît davantage lors des mariages ou anniversaires lorsque des convives lui demandent un titre à l'improviste. Il charge alors à l'un de ses assistants de l'aider à trouver la chanson. Silam El Gual est une amie et assistante de Eden Jay.
Le problème, c'est que, et ça arrive souvent, lors des prestations, c'est que les personnes demandent à avoir telle musique ou telle musique. Il va falloir piocher en fait dans une des clés USB. On ne sait pas du tout, vu que c'est vraiment rangé par ordre. Et du coup, ce que l'on fait, c'est de collecter le téléphone et de lancer la musique. Ça, c'est vraiment le cas très compliqué.
Outre leur aide logistique, ces derniers sont indispensables pour prendre la température des salles afin qu'Eden ajuste sa prestation musicale. Avant lui, d'autres DJ avec un handicap se sont fait connaître, comme le Suisse DJ Hardcore Head, qui souffre d'une déficience affectant son mouvement. DJ Rideau mixe avec son nez pour remplacer ses doigts défaillants.
Eden Didier espère connaître le même succès. Il prépare la sortie d'un mini-album avec 5 morceaux.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Linden, production Georges et Léonard Sagno, Lionel Gaïma. Merci à vous d'avoir suivi et resté connecté sur notre site internet voafrique.com et sur nos pages Facebook, X et YouTube pour plus d'informations 24 heures sur 24.